marche du monde. Valérie Nivelon.
Bien que l'abolition de l'esclavage date en France de 1848, il aura fallu 150 ans à la République pour reconnaître sa responsabilité dans la traite négrière. Reste que la France est la première et la seule nation au monde à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, tarcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Il n'est pas non plus une profession de foi parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La loi présentée par Christiane Taubira est votée le 21 mai 2001. Et depuis 2006, la date du 10 mai honore le souvenir des esclaves et commémore l'abolition de l'esclavage. C'est la poursuite du combat de Christiane Taubira et c'est aussi le combat de notre invitée, politologue Françoise Vergès, présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage de 2008 à 2013. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vergès. Comment avez-vous vécu ce 10 mai au mémorial de l'esclavage à Nantes où vous êtes très investie, Françoise Vergès?
Le 10 mai de cette année, 2014, a été dédié à la création de la République d'Haïti, 1804-2014. Et nous pensions qu'il fallait vraiment l'honorer. Comme vous le savez, c'est une des plus grandes révolutions du XVIIIe siècle, totalement méconnue. On connaît l'anglaise, l'américaine et la française, on ne connaît pas la haïtienne. Alors que c'est la seule au XVIIIe siècle qui non seulement est anti-esclavagiste, mais elle est aussi anticoloniale et antiraciale. Puisqu'elle annonce au monde qu'il n'y aura pas d'exclusive à la déclaration « Tous les hommes, puisque c'est on disait les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Donc nous avons eu Franck Étienne, le grand poète Franck Étienne, Maryse Condé aussi était là, l'ambassadrice d'Haïti en France était présente, et nous avons inauguré une exposition qui est sur l'esplanade et qui sera là jusqu'au septembre, qui raconte l'histoire d'Haïti, celle des Taïnos aussi, avant évidemment la colonisation par Christophe Colomb, dans les Amérindiens, qui ont laissé quand même des choses extraordinaires, et puis ensuite la colonisation, la révolution, la création de la République, mais qui trace aussi évidemment l'incroyable créativité haïtienne. C'est-à-dire que nous avons aussi un panneau sur la littérature, le cinéma, la musique, toutes ces choses extraordinaires. Et donc c'était ce 10 mai vraiment l'occasion de célébrer cette première République arrachée par l'insurrection victorieuse d'esclaves.
Alors c'est très intéressant, Françoise Vergès, justement le cas de la ville de Nantes, parce qu'on est quand même dans une ville qui a été le premier port négrier français au XVIIIe siècle et qui néanmoins occulte ce passé jusque dans les années 90 pratiquement. Pourquoi ?
Oui, il y a de toute façon tout un silence partout. Il y a un silence en France généralement sur la question. On le sait par exemple dans les livres d'école, même je parle dans les années 30, 40, 50, il y avait des choses sur l'empire colonial, mais rien sur l'esclavage. L'esclavage avait disparu de la conscience française. Pendant tout le temps de l'empire colonial, on oublie un petit peu, la France se démarque constamment de l'Angleterre. Et donc les Anglais, ce sont ces gens mercantiles, barbares. Les Français, c'est la colonisation généreuse, civilisatrice. Donc évidemment, la France ne peut pas avoir fait ces choses-là. Et donc le souvenir reviendra en fait par les terres d'outre-mer.
Et à Nantes, on comptabilise 1714 expéditions négrières du milieu du XVIIe au milieu du XIXe siècle sur les 4220 organisées donc par la France, par ce qui est devenu la République française, ça concerne combien de personnes déplacées ?
La France a déporté plus d'un million et demi d'Africains à travers, non pas seulement vers ses colonies, parce qu'on le sait, vous pouviez vendre aussi les captifs à d'autres colonies. Je veux dire, c'est vraiment un commerce international, on pourrait dire un commerce européen. Il y a des Hollandais qui peuvent vendre à des îles esclavagistes françaises. Donc, la France déportera pour l'Atlantique et puis dans l'océan Indien, évidemment, il y a aussi des déportations de Malgaches et puis d'Africains de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mozambique. Mais à l'île de la Réunion et à l'île Maurice, on a eu aussi des esclaves du Yémen, enfin du Golfe Persique, et même de l'Inde et de Malaisie. J'avais retrouvé des archives où on parlait d'esclaves donc malaisiens avant l'abolition de l'esclavage. Donc on a drainé sur l'océan Indien.
Françoise Vergès, comment faut-il s'imaginer une expédition négrière, puisque c'est le terme, hein?
L'expédition négrière, ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que ça met en branle toute une série de choses. D'ailleurs, tout un arrière-pays. D'abord, il faut construire le bateau, donc il y avait des tas de métiers. Derrière ça, quand on dit que ça n'a rien rapporté, mais ça faisait travailler pas mal de monde en France. Et dans le Nantes, c'est tout l'arrière-pays nantais. Il faut mettre du blé sur le bateau, il faut mettre du vin, il faut mettre des toiles, il faut apporter les fusils qu'on va échanger. Donc tout ça, ça va soutenir l'industrie et l'économie de l'arrière-pays. Ensuite, il faut des marins, il faut des capitaines, il faut des banquiers, il faut des assureurs qui vont assurer le bateau. Et puis on va, on échange, on cabote, parce qu'on le sait, les Africains n'ont pas laissé les Européens pénétrer à l'intérieur de l'Afrique. Ils sont restés que sur le bord. Ils ont construit que des forteresses et c'est là que s'opérait donc le commerce. Les négriers africains amenaient les captifs et on les vendait là. Ensuite, c'était donc ce qu'on appelle le passage du milieu et on revendait de l'autre côté et on ramenait des marchandises. Donc c'est vraiment un commerce extrêmement important et qui nécessite un énorme investissement en hommes, en fourniture, en argent.
Écoutez RFI. La marche du monde.
La marche du monde interroge les mémoires de l'esclavage en France et aussi à Madagascar avec nos invités Françoise Vergès et Clara Boyer-Rossol, doctorante au département d'histoire de l'université Paris 7. Bonjour Clara.
Bonjour.
Alors vous vous passionnez, vous, pour l'histoire de la traite à Madagascar, qui est une histoire extrêmement particulière, une histoire double, j'allais dire, une histoire d'exportation, puisqu'on parle de marchandises, mais aussi d'importation.
Oui, tout à fait. Alors, Madagascar a été une île exportatrice d'esclaves pendant des siècles, autant dans l'espace de l'océan Indien, notamment en direction des Mascareignes, c'est-à-dire de la Réunion et de l'île Maurice, mais jusque dans la péninsule arabique, et dans l'espace atlantique également. On retrouvait jusqu'au moins la fin du XVIIIe siècle des esclaves malgaches jusqu'en Louisiane et à Cuba aussi.
Mais Madagascar a été également donc importatrice. Voilà. Le commerce s'est fait dans les deux sens.
Et au début du XIXe siècle, Madagascar est un royaume reconnu par les puissances internationales de l'époque, notamment la Grande-Bretagne, avec qui le souverain de Tananarive signe un traité en 1817 et reconnaît la traite des esclaves comme illégale. Interdit donc l'exportation d'esclaves. Alors elle continue évidemment tout au long du XIXe siècle, mais de manière réduite et clandestine. Et c'est à ce moment-là que la Grande Île se met à importer de manière massive des esclaves est-africains. Alors ça représente tout de même près d'un demi-million de personnes qui ont été déportées par les voies de la traite illégale des esclaves à Madagascar, et peut-être 450 000 au moins qui ont été introduits dans les sociétés malgaches et asservis localement. Une autre partie était réexportée vers les autres îles de l'océan Indien sous des formes déguisées du trafic. Donc c'est quand même, on parle vraiment d'une migration forcée qui est très importante en termes quantitatifs, à savoir qu'à l'époque, la démographie de Madagascar au XIXe siècle n'excédait pas les 2,5 millions d'habitants. Voilà.
C'est une saignée extraordinaire. Oui. Françoise Vergès parlait de plus d'1,5 million captifs en ce qui concerne le marché français, si j'ose dire. Là, Madagascar, c'est une partie très très importante de la population.
Je suis arrivée quand même à un minimum de 350 000 à 450 000. C'est quand même... Bon, voilà. Comme on est dans un contexte de traite illégale, et voilà. Il y a des lacunes en termes de sources. Et il est... quasiment impossible de chiffrer, de quantifier de manière précise l'attrait des esclaves dans le contexte illégal du XIXe siècle. Et à la limite, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant ce débat sur les chiffres. Je pense que ce qui compte aujourd'hui le plus, c'est de comprendre les processus. Le processus de déportation et d'asservissement. Le processus d'aliénation.
Alors justement, vous vous intéressez au parcours voilà. des captifs. Mais avant d'en venir justement à ces destins singuliers, par qui et pour qui on fait cette déportation, on fait ce marché en ce qui concerne, et ce commerce en ce qui concerne Madagascar, qui est votre terrain, Clara Boyer-Rossol?
Oui. La traite des esclaves a été mise en illégalité, mais l'institution de l'esclavage était licite. Elle a même été légiférée. À Madagascar, au XIXe siècle, on dispose de sources écrites, malgaches, et de sources donc législatives, avec un ensemble de codes de loi, de nombreux édits qui ont été promulgués, notamment sur ces questions d'esclavage. Alors, c'est vraiment... c'est légiféré. Hein. On va légiférer sur le traitement des esclaves fugitifs, la prohibition du mariage entre libres et nobles et esclaves, par exemple, etc. Donc voilà, il y a toute une législation sur la traite de l'esclavage à Madagascar au XIXe siècle. Mais dans les endroits qui échappaient à la loi d'Antananarive, notamment dans certaines régions de l'Ouest, la traite des esclaves persistait jusqu'à l'orée du XXe siècle, et il y avait différents types d'esclavage, notamment des systèmes serviles qu'on retrouvait dans des sociétés swahili. Donc, pour résumer, les esclavages à Madagascar impliquaient des acteurs multiples, que ce soit des Malgaches, évidemment, mais aussi des Arabes d'Oman ou du Yémen, des Arabo-Swahili ou Swahili, des Indiens, des Makouas, des Est-Africains de l'intérieur du continent, et des Français aussi. Hein. Et des Français, il y avait quand même certains colons français qui étaient installés à Madagascar, et puis évidemment l'île de Nocibé, où des déportations d'Est-Africains continuaient sous la forme de langagisme, et des formes d'esclavage de plantation, en fait, aussi persistaient.
Clara Boyer-Rossol, les esclavages donc qui sont importés à Madagascar, où est-ce qu'on les retrouve après? À quoi servent-ils?
On retrouvait une grande variété de fonctions serviles. Ça pouvait aller de esclaves soldats à esclaves domestiques, mais il y a un phénomène assez marqué, surtout les dernières décennies du XIXe siècle, c'est l'esclavage dit de plantation. En tout cas, il y avait des grands nombres d'esclaves agriculteurs, notamment sur la côte ouest de Madagascar. Ils cultivaient du manioc, du coco, puisque le copra et l'huile de coco étaient très demandées sur le marché international, justement pour les industries émergentes. Et il y avait également aussi du riz, etc. Mais en fait, voilà, ce qui est important de souligner, c'est que ces exploitations d'hommes et de femmes et ces mises en esclavage de manière illégale, donc, nourrissaient une traite internationale dite légitime ou licite, qui était en grande partie une food trade, c'est-à-dire une traite en nourriture, en produits alimentaires. Et là, on pense évidemment à l'Afrique de l'Est, à Zanzibar, à la côte swahili, où toute une économie de plantations esclavagistes s'est développée au cours du XIXe siècle, avec notamment les plantations de girofles, etc., que l'on connaît à Zanzibar. Thank you.
écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niblon.
Alors Madagascar fait face à l'Afrique, hein. L'île se situe au large du Mozambique à plus de 400 km et aujourd'hui plus de la moitié des 22 millions d'habitants à moins de 18 ans. Alors moi je me demande qu'est-ce qui reste à Madagascar de ces mémoires des traites. Françoise Vergès, on l'a vu, vous avez parlé de silence en France, on a donné l'exemple de la ville de Nantes. Est-ce que ce problème de silence est récurrent partout ?
Il est récurrent partout, dans toutes les sociétés. Je pense que les recherches comme celle de Clara sont fondamentales parce qu'elles vont nous aider à mieux comprendre un phénomène qui a été vraiment a duré des siècles et qui a bouleversé le monde. Quand Clara parle de codes, des codes, il y en a chaque fois qu'il y a de l'esclavage. Chaque fois qu'il y a de l'esclavage, il y a des codes. Ces codes, et on voit se répéter partout, la question de l'enfant, le code noir n'est pas exceptionnel, n'est pas du tout exceptionnel. Il faut faire attention. Moi, je l'ai retrouvé notamment, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Golfe, hein, autour des pêcheurs de perles, qui étaient au 19e siècle aussi des esclaves, et qui étaient des esclaves amenés de la Corne de l'Afrique, puisque justement l'Europe, il y avait une folie des perles, hein, des grands colliers de perles qu'on retrouve dans toutes les années 30. Des perles, il fallait en trouver. On les pêchait au large de Dubaï, et c'était des esclaves amenés aujourd'hui le Soudan, l'Éthiopie. Et on avait des codes, et ces codes sont ceux que décrit Clara pour Madagascar. Ce sont des codes qu'on va retrouver au Brésil ou ailleurs. Donc, il faut reprendre cette question. Et je pense que, si vous voulez, quand on parle justement d'esclavage, il faut comprendre que, avec l'esclavage colonial, c'est la première organisation au niveau mondial d'une main-d'œuvre mobile et racialisée.
C'est la première mondialisation.
Oui, et cette mondialisation demande de la main-d'œuvre. On ne pouvait plus faire travailler les Amérindiens dans toutes les colonies des Amériques et des Caraïbes, et les travailleurs engagés européens, ils ne tenaient pas face aux maladies tropicales. On l'a fait venir, et donc on a organisé la déportation de millions d'Africains. Donc c'est la première fois qu'il y a une telle organisation pour servir une industrie. Alors ensuite, on abolit l'esclavage, c'est-à-dire la traite est abolie, et on repasse à une nouvelle forme d'organisation de cette main-d'œuvre mobile, qui est toujours racialisée et qui est aussi sexualisée, puisqu'on le sait, c'était 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes. Ça continue, 2/3 d'hommes. 30 millions d'Indiens vont quitter l'Inde, 50 millions de Chinois vont quitter la Chine, entre 1830 et 1940. Donc vous voyez les immenses circulation de main-d'œuvre à travers le monde pour servir les nouvelles économies. Donc il faut ce silence, il a à voir aussi avec le silence sur comment s'est installée l'inégalité au niveau mondial, ce qu'on appelle les rapports Nord-Sud, ce qu'on appelle la hiérarchie raciale. C'est une organisation qui commence avec la traite négrière et l'esclavage colonial et qui se poursuit et qu'on retrouve ensuite à des niveaux locaux, à Madagascar ou dans d'autres pays. On pourrait décrire des tas d'autres pays aussi du continent africain ou du continent asiatique ou des continents américains. Donc on voit, si vous voulez, c'est vraiment se poser la question, pourquoi on n'en parle pas? Alors il y a évidemment la honte d'avoir appartenu à un monde d'esclaves. D'autre part, vouloir faire silence justement sur quoi s'est posée la richesse, sur quoi s'est reposée la richesse de certains, sur quoi repose toujours la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire l'accumulation de richesses aujourd'hui comme hier? Alors, on va aujourd'hui plus parler de la souffrance, on va avoir de l'indignation morale, parce que ça, c'est possible. Ça, on peut l'entendre. Mais si on parlait effectivement de la question de pourquoi on a eu besoin de cette organisation du travail pour que l'Europe ait des perles et du tabac, du sucre, du rhum, du café,
des produits, ou
du copra ou du riz, enfin des tas de choses, on poserait la question autrement et on comprendrait aussi pourquoi le silence a été fabriqué.
Mémoire d'esclaves avec Françoise Vergès et Clara Boyer-Rossol, c'est tabou et c'est dans la marche du monde, juste après les infos sur RFI.